Phil PM. Politique.
J'annonce aujourd'hui que je mets fin à ma carrière politique. Avec un bilan plus qu'enviable et le résultat de l'élection du 1er octobre, après avoir mis toute mon énergie au service du Québec, demeurer en politique, à quelque titre que ce soit, est au-delà de ce que je me sens humainement capable de faire. Suzanne et moi allons entreprendre une nouvelle phase de notre vie. Il est maintenant temps de penser un peu à nous. Le Québec doit demeurer une terre d'accueil souriante, une société inclusive où toutes et tous sont invités à la table. Un endroit où on juge les humains pour ce qu'il y a dans leur tête, pas sur leur tête. Tenter d'imiter nos adversaires ne nous conduira pas à la victoire. La force de nos convictions, oui.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Paul Journet est éditorialiste à la presse. Carl Bélanger est consultant en communication, stratège politique. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Donc, moment de très, très touchant, là. Je veux dire, on a vu Philippe Couillard ce matin, là, dire merci à sa conjointe, Mme Pilote, qui était juste à côté de lui, puis de l'avoir, le prendre et puis le consoler. C'était un moment, franchement, très touchant et magnifique, je dois vous dire, parce que pour être un petit peu déjà passé par là, les gens ne réalisent pas à quel point la politique, c'est tough, c'est dur. Et puis, de se retrouver avec les êtres qu'on aime, c'est triste. On est triste de la quitter, parce que souvent, on la quitte dans des conditions difficiles. Mais en même temps, on retrouve le monde qu'on aime, puis je sais pas comment dire ça. Je suis plutôt maladroit dans ma façon de l'amener, mais j'ai partagé l'émotion de Philippe Couillard ce matin. Je l'ai comprise.
C'est très difficile pour les familles, la politique. Les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais t'es jamais là. T'es tout le temps sur la route. Ton téléphone sonne à toutes les heures. Quand t'es à la maison, ben, tu peux pas jouer avec les enfants parce que t'es déconcentré par un dossier ou quelque chose. Puis ça arrête jamais, surtout depuis l'arrivée des médias sociaux. Il y a toujours quelque chose qui se passe. T'es pris là-dedans tout le temps. Et parce que tu crois en ce que tu proposes, dans les valeurs que tu véhicules, parce que tu y crois, ben tu veux les défendre parce que tu ne peux pas te permettre de céder un pouce. Et pour, ça prend des conjoints, des conjointes très, très compréhensifs pour pouvoir faire ce métier-là. Et je comprends également les sentiments qui envahissent Philippe Couillard, parce que comme tu l'as dit, Bernard, ben c'est pas lui qui a choisi le moment où il quittait.
Non, c'est ça. C'est ça, Paul.
J'ai déjà interviewé un boxeur qui avait mangé une volée quand je couvrais un combat de boxe, puis je me sentais petit et humble. Et quand un chef politique quitte après avoir été défait, c'est ça fois mille. Puis je trouve qu'on est très, très difficile avec les leaders politiques. Ils sont toujours critiqués. Puis ce qui me dérange, c'est que souvent, on présume de leur intention, on leur prête de mauvaises intentions. Puis écoute, la politique, c'est un jeu rude, tu le sais. Il y a des gens qui sont fortement en désaccord. C'est le domaine des passions, c'est pas juste la raison. C'est normal qu'il y ait des vifs débats, mais on voit que chacun des chefs élus au Québec, ils ont l'intime conviction que ce qu'ils font, même si des fois il y a des erreurs, même si des fois il y a des calculs, de façon générale, que c'est dans les intérêts supérieurs du Québec, puis ils agissent en fonction de leurs valeurs, puis qu'on soit d'accord ou non avec M. Couillard, je pense qu'il a agi en ce sens-là. Puis oui, écoute, moi j'ai été, je pense que c'était d'autant plus touchant que c'est quelqu'un qui parle rarement avec ses émotions.
Ah oui.
Quand on l'a entendu dire. Moi, ça me faisait penser un peu en fait à Mme Marois en 2014 aussi. Souvenez-vous quand elle avait fait sa conférence de presse de départ, puis elle dit « Il est temps pour moi de retourner dans mon jardin. »
Ouais,
de,
ouais. Et c'était fait avec la dignité dans les deux cas. Hein? C'est à ça qu'on s'attend dans le fond d'un premier ministre sortant qui accepte le verdict avec dignité, pas avec rancœur. Et les émotions prennent le dessus. C'est correct, c'est des
mais
humains.
Oui.
C'était un beau discours, c'était un grand discours en fait.
Vas-y,
il y avait aussi un testament politique là-dedans,
vas-y,
hein, quand même. M. Couillard qui a dit que le plus grand défi pour l'avenir du Québec, c'est le défi démographique, vieillissement de la population, qu'on avait besoin de l'immigration et que c'était à nous, Québécois, d'inclure les nouveaux arrivants. Et c'est là vraiment qu'on avait son testament politique. Il y a quelques passages que j'ai remarqués. Il disait, dans ce dossier-là des relations avec les minorités, l'accueil des nouveaux arrivants, il disait chaque mot chaque geste compte. Et il a cité un penseur qu'il aime beaucoup, Amin Malouf, qui dit que la façon dont on traite les minorités, ben, c'est pas un dossier comme un autre, c'est aussi avec les rapports qu'on a avec les femmes, un révélateur de si une société avance ou régresse. Mm-hmm. Il a aussi rappelé qu'une majorité n'a pas tous les droits. C'est pas parce que la majorité est en faveur de la restriction des droits des minorités que c'est pour autant légitime sur le plan politique ou juridique. Puis des propos qui étaient encore moins voilés par rapport au débat qui a ressurgi hier avec les propositions de la Coalition Avenir Québec sur les signes religieux. Il a dit on devrait juger les gens non pas pour ce qu'ils ont sur leur tête, mais plutôt pour ce qu'ils ont dans leur tête. Et il a fait un appel à ses successeurs au Parti libéral en disant « Ne marchandez jamais vos valeurs pour quelques votes. » Et Bernard, indépendamment de ce qu'on pense sur le fond dans le débat, c'est un fait pour connaître Philippe Couillard que lui, il en faisait une question de principe. Il y croyait fermement et il était prêt à perdre le pouvoir pour défendre ses convictions sur les libertés individuelles par rapport à la liberté de religion.
Voilà. On va passer, Carl, si tu veux bien, à cette rencontre avec les producteurs laitiers, rencontre de Justin Trudeau avec les producteurs laitiers. Est-ce qu'on sait un petit peu ce qui en est? Et quelle analyse tu fais de la situation, toi, de Justin Trudeau, dans ce dossier-là, là?
Ben écoute, il est en gestion de crise, hein. Les producteurs laitiers, c'est des gens qui sont évidemment très influents. On l'a vu dans la course à la chefferie du Parti conservateur où ils ont réussi à faire élire Andrew Scheer. Ils sont capables de se mobiliser, puis quand ils le font, ben ça fait du bruit, puis ça laisse des traces. Puis ils sont pas contents. Ils sont pas contents, ils se sentent trahis. Il y a eu plusieurs rencontres avant que les négociations se terminent et on entendait Justin Trudeau dire qu'il allait défendre la gestion de l'offre, qu'il allait défendre les producteurs laitiers, mais là, ils se sentent trahis. Ils se sentent trahis et donc...
Les producteurs laitiers ont l'impression que c'est eux, dans le fond, qui ont été sacrifiés pour obtenir une entente.
Mais oui, effectivement. Et là, il y a d'autres industries qui ont été vues comme perdantes. L'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre, les médicaments génériques, l'industrie au détail. Là, tu vas parler avec Monsieur Simon tantôt.
Oui, oui, oui.
Donc, il y a d'autres perdants. Mais l'industrie laitière, c'est un peu comme... la fabrique, tu sais, on vient de la terre, on a déchiffré, tu sais, alors c'est très émotif et effectivement pour les gens, puis ça amène des échanges aux communes assez musclés. Hier, il y en a eu encore, il y en a eu toute la semaine, mais on peut écouter ce que ça a donné hier entre Andrew Scheer et Justin Trudeau.
Le premier ministre a déclaré qu'il allait protéger la gestion de l'offre, mais il a échoué. Le premier ministre a fait des concessions majeures sur l'accès à notre marché laitier. Est-ce que le premier ministre peut confirmer quelles concessions il a reçues en échange des concessions qu'il a faites sur le dos des agriculteurs canadiens?
En termes de part de marché, nous promettons aux producteurs qu'ils seront entièrement et justement compensés.
Ben, c'est ça.
C'est le nerf de la guerre.
Carl a dit quelque chose d'important tantôt. Je pense qu'il y a un volet qu'on ne doit pas sous-estimer, un volet identitaire, presque nationaliste par rapport à ça.
Ben oui.
Les producteurs agricoles, c'est lié à l'occupation du territoire. Ben quand on parle à la défense d'une nation, ben une nation, ça s'incarne dans une langue, mais ça s'incarne aussi dans un territoire. Et qu'est-ce qu'il y a de plus fondamental qu'occuper un territoire pour nourrir un peuple? Donc, la valeur symbolique n'est pas à sous-estimer. Carl a raison.
Il y a un mode de vie traditionnel au Québec, mais aussi au Canada, mais particulièrement au Québec, où l'agriculture a bâti l'économie.
Elle a bâti la société, en fait.
Absolument.
Je ne veux pas retourner trop dans l'histoire, mais dans les faits, à un moment donné, c'est tout ce qu'on avait à l'agriculture. Hein?
Oui, effectivement.
Bon.
Donc là, on parle de compensation, mais comme on a vu dans le cas des accords commerciaux avec l'Europe et avec les pays du Pacifique, pour les producteurs laitiers, ces compensations-là qu'ils ont eues à la suite de ces brèches dans leur système, ben c'est perçu comme très inadéquat. Puis là, évidemment, on s'inquiète. On se dit, ils nous ont trahis avec les Américains. On n'a pas eu les compensations qu'on espérait dans les deux autres cas. Qu'est-ce qui va nous rester aujourd'hui? Ben là, c'est la clé. Puis Justin Trudeau, il n'est pas très précis. Là, la rencontre s'est terminée il y a à peu près 45 minutes. Donc, on pourra en parler plus demain.
Oui. Oui. En tout cas, je veux dire une chose. Pour un gars qui s'en va en élection dans un an, il a intérêt à régler cette affaire-là, bêtement, pas laisser traîner ça en longueur. Et puis, évidemment, politiquement, je dirais que les producteurs de lait, nonobstant le fond des choses, sont dans une position pour exiger beaucoup. Est-ce qu'ils vont en voir beaucoup? Ça, ce sera intéressant à voir. Mais mettons qu'ils ont un bon rapport de force, Carl, hein, en terminant.
Et ils ont un capital de sympathie parmi la population. Les producteurs laitiers, les gens les aiment. Généralement, là, il y a un bon sentiment envers eux. Et donc, pour Justin Trudeau, ben, il faut garder un œil là-dessus parce que si ça s'envenime et s'ils réussissent à obtenir un peu d'appui de la part de la population, ça pourrait coûter cher aux libéraux dans la prochaine élection fédérale, et particulièrement au Québec. Et c'est pour ça que le PM, aujourd'hui, a rencontré les producteurs laitiers.
Très bien. On s'arrête. Au retour, on continue avec Paul, qui va nous parler de la suite des choses au PLQ, parce que demain, ils élisent, les libéraux, un chef intérimaire ou une chef intérimaire, on verra bien. Et Carl va nous parler du pot, là. Peut-être que les gens qui ont un casier judiciaire, finalement, vont s'en sortir. On va leur pardonner cela. OK, de retour avec Carl Bélanger, Paul Journet. Paul, donc les libéraux qui vont élire demain un chef intérimaire. Oui. On me dit Saint-Pierre et Arcan, Christine Saint-Pierre et Pierre Arcan ont une longueur d'avance. Barrette ne semble pas être dans la lutte jusqu'à maintenant.
Faudrait le lui dire.
Et Tanguay est un petit peu comme la carte, le Joker, on sait pas trop. Il y a peut-être un petit peu de traction chez les plus jeunes députés, on sait pas trop.
Mais dans un monde idéal, on voudrait avoir quelqu'un de jeune qui représente la nouvelle génération,
oui,
et aussi qui permet de faire une rupture avec l'ère Charest et peut-être même avec l'ère Couillard,
ben
qui
oui
vient d'être défait.
Oui.
Mais malheureusement, je ne veux pas te briser le cœur, Bernard, mais on ne vit pas dans un monde idéal, y compris pour les libéraux.
Oh,
ils ont élu seulement 32 députés.
Dis-moi pas.
Les candidats qui ont le plus d'envergure, ben forcément, ils vont vouloir devenir le futur chef. Mm. Or, le chef intérimaire ne peut pas avoir des ambitions,
non,
pour la chefferie, pour la suite des choses. Et les nouveaux venus, est-ce qu'ils sont prêts dès les prochaines semaines à donner la réplique à François Legault en chambre? On veut quelqu'un d'expérimenté.
C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il faudrait aller avec un jeune qui n'a pas d'expérience, parce que dans une course à la direction, il faut gérer tous les camps, toutes les équipes, il faut être capable de faire preuve de doigté, il faut avoir de l'expérience. Et donc, c'est pour ça que dans le passé, on a eu droit à des gens comme Gérard Delévêque, des gens comme Jean-Marc Fournier, qui ont été chefs intérimaires du Parti libéral du Québec, parce que c'est des gens qui connaissent le parti, comment ça fonctionne, et qui peuvent garder le bateau à flot le temps qu'on choisisse un nouveau chef.
Mais ouais, Pierre Arcan et Christine Saint-Pierre, même s'ils remontent à l'ère Charest, ils ont pas, on les voyait pas à la commission Charbonneau, puis c'est pas des gens qui ont été éclaboussés par quelconque scandale.
C'est vrai.
Pierre Arcan, je sais qu'on lui reproche d'être plutôt terne, mais bon, je l'ai déjà vu, j'allais dire crier, mais parler très fort.
Oui.
Il est capable.
Ben
oui,
ben
au salon bleu.
On s'est affronté lui et
oui
moi. Il est capable de lever le ton. Il est capable d'être assez vigoureux.
C'est ça. Ben puis oui, il sourit rapidement après. C'est pour ça que
oui
ses collègues l'aiment, parce
absolument
que c'est quand même un gentilhomme.
Oui.
Ça incarnerait une certaine stabilité. Puis il faut pas oublier aussi qu'un chef intérimaire, son travail, c'est pas seulement de donner la réplique au gouvernement à la période de questions, mais il doit assurer une certaine cohésion dans le caucus dans la période la plus turbulente, c'est-à-dire
oui
la période d'une course à la direction
oui
où parfois il y a des gens gentils qui peuvent faire, Bernard, des choses pas tout à fait gentilles, hein?
C'est la même famille.
Attends un peu, Carl, Paul, est-ce que tu veux t'expliquer? Donne-nous un exemple.
Ben, je pensais avoir parlé avec mon cœur et tout avoir dit, mais bon. Écoute, Bernard, je sais pas si t'as une culture cinématographique, là. Mettons que le pouvoir, c'est la bague précieuse dans Le Seigneur des Anneaux.
Oui.
Mais plus tu t'approches de la bague, plus t'as des palpitations cardiaques et
my
plus
precious
t'es en train de penser à des choses que tu pourrais faire que finalement, tu te surprends toi-même
attends,
à les faire,
attends,
Bernard.
Écoute.
C'est
Carl! Je pensais que c'était un effet sonore. Je pensais que c'était Larry qui m'a demandé.
Ça veut dire que je l'ai. Ça veut dire que je l'ai.
T'es excellent.
Nomination pour un iris.
Vas-y,
Carl Bélanger.
Carl, encore?
My precious.
Pas si mal. Alors, oui, on a bien compris ton image.
Exactement.
Oui, voilà.
Puis peut-être rapidement aussi, il n'y a pas juste le volet parlementaire à l'Assemblée nationale pour les libéraux, mais il y a aussi le parti. M. Couillard a dit qu'il laissait un Québec en bon état, des finances publiques en ordre.
Oui.
C'est vrai, mais le Parti libéral, lui, il y a une relation de confiance à rebâtir entre l'aile parlementaire, entre le chef et les militants. On a entendu souvent parler de militants qui s'estimaient un peu tenus à l'écart, puis qui avaient le goût que le parti se reconnecte avec sa base militante. Ça aussi, ça va être un défi à venir pour les libéraux.
Absolument. Se reconnecter, on le rappelle, hein, moins de 25% des voix, il n'y avait jamais eu ça, les libéraux. Le plus bas qu'ils étaient allés, c'était 31% sous Charré en 2012. Et là, ils sont tombés à moins de 25% le soir des élections de lundi. Carl, en deux minutes, parle-nous de ce projet de loi néo-démocrate qui ferait en sorte que les gens qui ont été condamnés pour possession simple de marijuana, de cannabis, verraient leur dossier criminel effacé, c'est ça?
C'est ça, c'est un projet de loi qui va être présenté aujourd'hui par Murray Rankin, qui est le porte-parole en matière de justice. Ils ont tenu une conférence de presse là-dessus. Là, on peut écouter Jack Mitzing, le chef du NPD.
Ils vont être continués d'être punis par une pratique, pour une activité qui est légale. Ça, c'est injuste. Ce qu'on propose, on va proposer comme néo-démocrate avec notre porte-parole Murray Rankin, un projet de loi pour effacer les bilans, les dossiers criminels pour les gens qui font face à une condamnation pour la possession personnelle.
Bon, OK. Ça va-tu passer?
Donc, essentiellement,
ça va-tu passer, Carl? C'est ça qui m'intéresse,
écoute, moi. Écoute, ça reste à voir. Le gouvernement fédéral, les libéraux ont déclaré qu'avant la légalisation, ils n'envisageaient pas de pardonner. Mais là, la légalisation, c'est dans deux semaines. Alors, ils sont ouverts sur la possibilité de le faire. La réalité, c'est qu'il y a des gens, là, jusqu'à récemment, 18 000 personnes qui ont été accusées en 2016. C'est des cas qui restent avec eux pour le restant de leur vie, pour des gestes.
Accusés ou condamnés en 2016?
On parle d'accusations.
Okay.
Les condamnations ont été beaucoup moindres, ouais. Mais il y en a quand même quelques milliers. Ouais. Puis c'est surtout des jeunes.
Juste pour une année, là?
Ben oui, juste pour une année.
Si on parle sans doute plusieurs milliers, peut-être quelques dizaines de milliers de personnes qui ont un casier judiciaire à cause de la possession simple.
Depuis l'arrivée du gouvernement Trudeau, il y a plus de 2000 personnes qui ont été condamnées. Mmh. Alors ça, ils traînent ça toute leur vie. Et c'est l'objectif du projet de loi, c'est de dire, ben écoutez, là, c'est un geste qui est légal maintenant. On peut-tu, s'il vous plaît, pardonner ceux qui ont commis ce crime-là à l'époque où ça l'était? Mais aujourd'hui, c'est légal. Alors, c'est pas vraiment logique de les pénaliser parce que ces gens-là, ben, au niveau du travail, au niveau du voyage, pour être bénévole avec des enfants, mais ils ont un dossier criminel.
D'accord. Paul, en 20 secondes, est-ce que tu serais favorable, toi, à ce que les dossiers soient effacés?
Je dirais en une seconde, oui.
C'est réglé dans ta tête, Carl?
Succinct. Mais oui, absolument, c'est une très bonne idée.
Bon, mais les gars, vous vous entendez, c'est formidable. Carl Bélanger, je vais avoir le temps de donner ton titre au complet, consultant en communication et stratège politique. Merci, Carl, à demain.
My precious.
Oh, excellent! J'adore le Seigneur des Anneaux. Paul Journet, éditorialiste à La Presse. Merci, Paul.
Merci, Bernard.
Toi, ton personnage principal que t'aimes dans le Seigneur des Anneaux, c'est qui?
Celui qui meurt pas à la fin.
Merci à vous deux. On continue après les infos.